France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Fanny Constant, Barbara Lotto, Stéphane Poitvin, Swad Boukorsa et Olivier Dehay. Voici la deuxième émission de notre série consacrée au pianiste Georges Siffra, qui aurait eu 100 ans en ce mois de novembre 2021, lui qui a quitté ce bas monde en 1994 à l'âge de 72 ans. Siffra, dont nous avions suivi hier les débuts discographiques de Budapest, sa ville natale, jusqu'à Paris dans les années 50. Aujourd'hui, année 60, Georges Siffra joue ses deux compositeurs fétiches, Liszt et Chopin, mais aussi Bach, Beethoven, Mendelssohn, Grieg ou encore Robert Schumann, dont voici sur France Musique la toccata en Do majeur, opus 7.
Thank you.
décembre 1960, salle Wagram à Paris. Georges Siffra avait ainsi enregistré la toccata opus 7 de Robert Schumann, un compositeur qu'on n'associe pas forcément à Georges Siffra, mais il l'a beaucoup enregistré à cette époque, entre 1956 et 1961, avec les études symphoniques, les Fantaisies Stuck, le Carnaval opus 9, le Carnaval de Vienne ou encore la 8e novelette. Mais évidemment, le compositeur numéro 1 dans le répertoire de Siffra reste et restera Franz Liszt. On avait pu l'entendre hier avec ses rhapsodies hongroises, avec ses études d'exécution transcendante, ses transcriptions. Et puis il y a bien sûr les deux concertos, notamment ce premier concerto que Georges Siffra a enregistré à plusieurs reprises. D'abord avec l'Orchestre National de France, dirigé en 57 par Pierre Dervaux. Il en fera une autre gravure française avec l'Orchestre de Paris, dirigé par son fils Georges Siffra Jr. en 1969. Mais c'est une version anglaise que je vous propose d'entendre. En 1961, Georges Siffra avait traversé la Manche pour quelques concerts londoniens, mais aussi pour enregistrer cette partition avec un grand orchestre de studio, l'orchestre Philharmonia, ici dirigé par le chef d'orchestre belge André van der Noot. Thank you. Les notes finales du premier concerto en mi bémol majeur de Franz Liszt, c'était en 1961, Georges Siffra, à Londres, avec l'orchestre Philharmonia dirigé par André van der Noot, un enregistrement publié par EMI. Je vous rappelle que Warner propose pour ce centenaire de Siffra un coffret de 41 CD regroupant l'intégralité de ses enregistrements studio et puis quelques inédits. Mais en 1962, Georges Siffra s'était brouillé avec Pathé Marconi, autrement dit avec EMI, à cause d'un contrat d'exclusivité qui avait été signé à Vienne en 1950. Au moment où il avait fui la Hongrie. Et c'est alors qu'il change brièvement de maison de disques pour enregistrer chez Philips, notamment d'extraordinaires études de Chopin, dont voici deux exemples. Georges Siffra interprétait les deux dernières études de l'opus 10 de Frédéric Chopin, la 11e en mi bémol majeur et la dernière, la plus connue, en do mineur.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Dans un grand dossier consacré à Georges Siffra en 1991, Christian Laurendin écrivait « Il est de bon ton de juger de Siffra inapte à jouer Beethoven ». On disait la même chose d'Horowitz. Il est vrai que les quatre sonates parues en 65 chez Siffra Productions, maison de disques éphémères, ne sont réussies ni sur le plan de l'enregistrement ni sur celui de l'inspiration. Nous avons cependant de merveilleux souvenirs de concerts avec l'opus 13 et l'opus 52. Et il faut invoquer ici les dieux de la réédition. Il existe deux disques Pathé Macaroni qui classent instantanément Siffra parmi les beethoveniens de grande volée. L'enregistrement est somptueux, le son rond, avec de la rigueur, de l'intelligence. La spontanéité fait ici place à une grande réflexion. On sent Siffra architecte. L'Adagio cantabile de la 8e sonate de Beethoven, l'opus 13 en do mineur, surnommé la pathétique. C'était en 1968, suite Georges Tiffra. Voilà le genre d'enregistrement qu'il faut réécouter pour sortir du cliché de l'homme aux 50 doigts. Et bien sûr, comme je le disais, Franz Liszt revient régulièrement dans ses partitions et dans cette discographie. Et en ce jour des morts, je n'ai pas résisté à l'envie de vous faire entendre sa danse des morts, la célèbre Totentanz que Liszt a conçu en 1849, année de la mort de Frédéric Chopin, dont il était question tout à l'heure. Partition conçue sur la fameuse séquence médiévale du Dies Irae, bien connue de la pianiste et médiéviste Fanny Constant qui réalise cette émission.
Wow.
1964, dans le mythique studio numéro 1 d'Abbey Road, où les Beatles enregistraient à cette époque-là. C'était l'orchestre philharmonia dirigé par André van der Noot, accompagnant Georges Siffra dans cette danse des morts, Totentanz, de Franz Liszt.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Et après cette tumultueuse danse macabre, un peu de sérénité divine, toujours en compagnie de Georges Siffra, autour de Jean-Sébastien Bach.
Thank you.
Wacht auf, ruft uns die Stimme. Réveillez-vous, nous dit la voix, nous crie la voix. C'était le choral BWV 645 de Jean-Sébastien Bach, connu sous le surnom de Chorale du Veilleur, arrangé pour piano par Ferruccio Busoni et enregistré en 1968 par Georges Sifra à Tokyo, au Japon. Nous suivons notre héros de la semaine à travers le monde. Il n'a pas enregistré seulement qu'en France ou en Hongrie, mais également en Angleterre ou à Tokyo, comme on vient de l'entendre. Et le compositeur que je vous propose d'entendre maintenant a beaucoup fait pour la musique de Jean-Sébastien Bach, en particulier pour sa passion selon saint Matthieu. C'est Félix Mendelssohn qui avait, entre guillemets, ressuscité cette partition un siècle après sa création, en 1829. Et bien, à cette époque, Félix Mendelssohn écrit un remarquable opus 14 pour piano, Andante e Rondo Capriccioso, par Georges Sifra. C'est de nouveau lors de sa tournée au Japon en 1968 que Georges Siffra avait enregistré cette merveilleuse partition de Félix Mendelssohn, cette partition féerique, Andante et Rondo Capriccioso en mi majeur opus 14 qu'il jouait ici magiquement. L'année suivante, de retour à Paris, il retrouve d'anciens partenaires de l'Orchestre Symphonique de Budapest, qui est de passage dans la capitale française. Et c'est l'occasion d'un enregistrement du concerto opus 16 d'Edouard Grieg. C'est également l'occasion d'une collaboration avec son fils, qui s'appelle Georges, qui s'appelait Georges, tout comme le père, Georges Siffra Junior, né en 1942-43. Nous avions évoqué les circonstances de sa naissance lorsque le pianiste devait suivre les troupes hongroises face à l'armée rouge. Et il avait assez peu connu son père dans sa petite enfance, Georges Siffra, mais il avait suivi ses pas au piano pour finalement se destiner à une carrière de chef d'orchestre. Et puis malheureusement, à 38 ans, Georges Siffra Junior va mourir dans des circonstances dramatiques que nous évoquerons vendredi prochain. Les voici donc, les deux Georges côte à côte, père et fils, dans cet enregistrement réalisé à Paris en 1969, le concerto opus 16 d'Edouard Grieg, dont c'est le final que je propose d'écouter.
Thank you.
C'était le final Allegro moderato molto et marcato du concerto opus 16 en la mineur d'Edvard Grieg, partition enregistrée en 1969 par les deux Georges Siffra. Georges Siffra, père au piano, avec l'orchestre symphonique de Budapest, dirigé par Georges Siffra Junior.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
En 1966, c'est-à-dire 10 ans après son arrivée en France, Georges Siffra fonde le festival de musique de La Chaise Dieu en Auvergne, avec l'aide du docteur Georges Mazoyer et de son épouse Suzanne. À cette occasion, ils feront restaurer les grandes orgues Martin Carouge de l'abbaye qu'on entend donc dans cette partie de la France, un festival devenu l'un des incontournables de l'été en France et même en Europe. 2 ans plus tard, 1968, il obtient la nationalité française. Ainsi, Georges, G-Y-O-R-G-Y, devient Georges, Georges Siffra, qui, à l'issue de ses concerts fleuves avec de longues partitions virtuoses, comme on l'entend depuis hier, propose à son public plusieurs séries de bis, des petites pièces des 19e, 20e siècle, mais aussi de la musique baroque, car Siffra fut également un interprète de Lully, de Rameau. On l'entendra en particulier vendredi dans ses dernières séances d'enregistrement des années 80, réalisées à Senlis, à Saint-Frambourg. Et puis également la musique de Scarlatti, présente dans son répertoire. En cette année 1969, il grave 2 sonates de Scarlatti, dont celle-ci, Kirkpatrick 159, en do majeur. Délicieux appel de cor de chasse dans cette sonate en do majeur, Kirkpatrick 159 de Domenico Scarlatti, qui illustre la variété du répertoire de Georges Siffra, quoi qu'on en dise. Mais bien sûr, évidemment, on retourne toujours à Franz Liszt, l'incontournable. Voici une dernière partition inscrite à cette émission, c'est après une lecture de Dante, qui va nous permettre d'entendre un Georges Siffra, non pas homme de cirque, homme aux 50 doigts, mais immense musicien d'une très grande profondeur, dans cette partition en grande partie inspirée de Dante, bien sûr, de la lecture de l'enfer, du purgatoire et du paradis, mais également de ce poème de Victor Hugo intitulé « Après une lecture de Dante », quand le poète peint l'enfer, il peint sa vie ombre qui fuit de spectres poursuivis, forêt mystérieuse où ses pas effrayés s'égarent à tâtons hors des chemins frayés, noir voyage obstrué de rencontres difformes, spirale aux bords douteux, aux profondeurs énormes, dont les cercles hideux vont toujours plus avant, dans une ombre où se meut l'enfer vague et vivant. Cette rampe se perd dans la brume indécise, au bas de chaque marche une plainte est assise, et l'on y voit passer avec un faible bruit des grincements de dents blancs dans la sombre nuit. Là sont les visions, les rêves, les chimères, les yeux que la douleur change en sources amères, l'amour, couple enlacé, triste et toujours brûlant, qui dans un tourbillon passe une plaie au flanc, dans un coin la vengeance et la faim, sœurs impies, sur un crâne rongé, côte à côte accroupi, puis la pâle misère au sourire appauvri, l'ambition, l'orgueil de soi-même nourri.
Thank you.
Après une lecture de Dante, Fantasia Quasi Sonata, cette partition légendaire de Franz Liszt était ici interprétée par Georges Siffra et ainsi s'achève cette émission.
À réécouter sur francemusique.fr.